Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Copine, entends-tu le pouvoir de ce mot sur nos peines? Copine, entends-tu les cris sourds de nos vies qu'on enchaîne? Oh, et féministe, suffragette absolutiste, c'est l'alarme. La sororité modifie le goût du sang et des larmes.
Pour obtenir l'égalité, point final entre les hommes et les femmes, et si les Françaises se mettaient en grève? Une grève nationale et totale, une grève du travail, du sexe, du couple et de la famille. Et si cet événement avait lieu le 14 juin prochain, sur le modèle de la grève féminine survenue en Suisse le 14 juin 2019, qui rassembla une femme sur neuf, pour protester contre l'écart salarial, les violences, la non-équité du temps dévoué aux tâches domestiques, pour bloquer les entreprises et les institutions. Le tout dans moins de 4 mois. La grève de tous nos outils de production, les femmes bras croisés, le pays perd-pied. Cette idée réjouissante fut formulée début février au Centre Pompidou, sous la forme d'une fiction prospective signée et déclamée par Chloé Delhomme, comme la prolongation naturelle de son essai intitulé « Mes bien chères sœurs » sorti en 2019, manifeste pour une sororité de combat qui s'apprête à sortir en poche aux éditions Point. L'écrivaine, dramaturge et performeuse, en activité depuis 20 ans via notamment un impressionnant cycle autofictionnel, y consignait l'apocalypse d'après Weinstein, les porcs balancés dans un étang de feu, l'extinction d'un système ou l'autorité qui, déjà, comme la honte, change de camp, tout en remixant le chant des partisans version pétroleuse, un schlass à la main. « Rangez vos canines, être sœur, c'est plus qu'être camarade », écrit-elle. « Sortez les cisailles, les hashtags qui mitraillent les grillades, ohé harceleur, pris à pic adipeux, courez vite, ohé prédateur, attention petit pourceau, ça retweet, c'est nous qui brisons le cristal comme le plafond de verre, sorora le secousse, neutralisez la frousse tenancière, il y a un pays, des femmes, une utopie et une trêve, ici, nous, vois-tu, rivales et séparés, on en crève. » En attendant le futur appel du 14 juin et que déferle la vague aux milliers d'amis inconnus sur tous les boulevards de l'Hexagone, l'essentiel de ce texte en cas de grève nationale des femmes sera lu aujourd'hui par la comédienne Anne Stephens. Tandis que mon invité du jour, Chloé Delhomme, elle, reviendra sur l'œuvre et l'impact de trois Amazones, l'autrice et dessinatrice Claire Bretéché, l'activiste radicale américaine Valérie Solanas ou Buffy, la tueuse de vampires, à laquelle elle consacra en 2007 une fanfiction sous forme de livre dont vous êtes l'héroïne, « La nuit, je suis Buffy Summers », qui sera réédité en avril aux éditions Joux. En préface, son ami Paco Mtielman écrit qu'elle a trouvé dans la société des sorcières une terre promise. Suivons-la, salut, ça va. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 13h. Bonjour, Chloé Delhomme.
Bonjour.
Ça s'est passé le vendredi 14 juin 2019 en Suisse, la grève des femmes, de toutes les femmes, dans la sphère privée et publique. Une grève féministe à l'échelle nationale, dans les rues du pays, elles étaient 500 000. 500 000 en Suisse représentent une femme sur neuf. Elles ont revendiqué l'égalité salariale, la reconnaissance et le partage du travail domestique. Elles ont revendiqué le respect de leur corps et la fin des violences sexistes. Le slogan de campagne était « Égalité ». Point final. Elle portait le violet de nos aïeules suffragettes et beaucoup de roses fuchsia. Quand vous découvrez les images de cette grève de femmes en Suisse, Chloé Delhomme, est-ce que vous vous dites spontanément qu'il s'agit de la prolongation naturelle, dans le réel, de ce très bel appel à la sororité formulé dans « Mes bien chères sœurs », votre livre publié aux éditions du Seuil au printemps dernier et qui s'apprête à sortir en poche chez Point, ce que vous appeliez de vos vœux apparaît donc comme ça dans la réalité.
Comme par magie, en vrai. Ce qui m'a beaucoup touchée, surtout, c'est que pour préparer cette intervention à Beaubourg sur la grève des femmes, j'ai écouté un podcast des Couilles sur la table sur la Suisse. C'est en 3 épisodes, je le recommande vivement aux auditeurs.
Une émission animée par Victor Troyon pour Binge Audio.
Tout à fait, et j'ai été stupéfaite par l'état des femmes dans le pays, en fait. Et finalement, on n'est pas si loin de la Suisse nous-mêmes. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super parce qu'une femme sur 9, c'est pas rien. Et si en France, on était une femme sur 9...
À défiler dans la rue pour réclamer l'égalité, point final.
Ça ferait 3 millions de personnes. Et là, je pense qu'on aurait une force de frappe qui serait extraordinaire.
Dans cette leçon que vous avez déclamée en février au Centre Pompidou, vous observez les faits suivants. En Suisse, l'écart salarial homme-femme est de 19%, comme en France. Plus de la moitié des femmes travaillent à temps partiel, contre 15% des hommes. 17% des femmes ont un bas salaire, contre 7% des hommes. Le congé maternité ne date que de 2005. Le congé paternité est d'un jour, soit autant que pour un déménagement. Il y a encore moins de crèches qu'en France. Les femmes paysannes sont perçues comme des épouses. Elles n'ont pas de contrat de travail. Et en cas de divorce, comme arrivée à la retraite, elles n'ont rien. En Suisse, ce qu'on appelle un viol, c'est exclusivement la pénétration d'un vagin par un pénis avec contrainte. Par un pénis et par rien d'autre. En Suisse, une sodomie non consentie n'est pas un viol. C'est une contrainte sexuelle, selon la formule consacrée. Et c'est pour toutes ces raisons, il y en a d'autres, qu'elles étaient 500 000 le 14 juin dernier.
Oui, j'ai été très très surprise pour cette histoire de contrainte sexuelle, en fait. Vraiment, c'est pareil, hein. Je l'ai découvert dans le podcast. Et je crois que ça a peut-être mobilisé, du coup, plus qu'on peut arriver chez nous. Mais en même temps, on n'est pas si loin non plus. Enfin, je veux dire, sur les viols en France, c'est quand même un problème. On a 12% seulement des femmes qui portent plainte. Et puis, on sait très bien que c'est le parcours du combattant et qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Donc... il me semble qu'on est vraiment assez proche de la Suisse, hélas.
La première grève des femmes qui a eu lieu dans le réel s'est déroulée à Rome, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le Sénat venait d'enlever aux femmes le droit de voyager en voiture. Elles refusèrent de faire des enfants tant que la loi serait maintenue. Le Sénat a fini par céder. Il a même instauré une fête pour commémorer leur lutte victorieuse. Ça s'appelle la Carmentalia. Où est-ce que vous avez trouvé cette information tout à fait formidable ?
Une amie historienne de l'art. Je me suis fait beaucoup aider pour les données. Il y a eu le podcast pour la Suisse et sinon j'ai une amie historienne de l'art spécialisée dans les questions des représentations des femmes qui connaissait cette anecdote. Donc je me suis ruée dessus. Elle ne pouvait pas... En fait, c'était une loi qui, soudain, par le Sénat, interdisait aux Romaines de prendre des voitures, enfin bon, des chars en l'occurrence. et avant, elles avaient le droit et d'un seul coup, elles n'avaient plus le droit. Donc, elles ont décidé de faire la grève de la natalité. Donc, ça revient à la grève du sexe à l'époque. Et en fait, ils ont cédé très, très, très vite.
Ok. Vous pouvez remonter sur le char, mademoiselle.
Voilà. Remontez vite et...
ayons des enfants.
Voilà. Ayons plein d'enfants.
Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a eu lieu en France dans les 100 dernières années ?
Non. En France, nous avons eu des grèves d'ouvrières, de femmes de chambre. On a eu les sardinières. On a eu des grèves en fait de corporations pour des conditions de travail. Mais on n'a pas eu de grève pour les mœurs ou pour un changement égalitaire. Ça ne s'est jamais produit pour l'instant. On a eu avec nous toute une marche contre les violences, ce qui est différent, mais on n'a pas eu de grève à proprement parler, c'est-à-dire que l'idée que les femmes ne se rendent pas à leur poste de travail et en parallèle se disent aujourd'hui au conjoint « je ne fais pas le ménage ni les courses et je ne m'occupe pas des gosses, je fais vraiment la grève de tous mes statuts », ça n'a pas encore existé.
Comment l'expliquer ?
Je sais pas, parce que pourtant on est très grève dans ce pays.
Bah oui, on adore ça, c'est un sport national.
C'est un sport national, mais je sais pas, l'idée n'a jamais été lancée. En Suisse, c'est les syndicalistes qui ont pensé en premier. Peut-être qu'il y a eu des mouvements chez les femmes gilets jaunes récemment, mais on n'a pas un mouvement qui adhère comme ça. Après, il y a aussi un problème, c'est qu'en France, les mouvements féministes sont plus... dans la bisbille, souvent, enfin, je veux dire, on a du mal à obtenir une cohésion de groupe ferme. Là encore, il y a des séparations par rapport aux colleuses sur la place des transsexuels. Enfin, on a toujours, On n'est pas pro-choix, il y a quelque chose qui...
Aux colleuses, vous voulez dire à ce qu'on peut voir dans différentes villes de France depuis plusieurs mois, oui. C'est-à-dire la dénonciation des féminicides à travers après le collage spontané de phrases, d'expressions qui rappellent ce problème, effectivement, et je crois qu'il y a une polémique qui est récente en plus.
Tout à fait récente.
De la personne qui a initié ces collages et qui dit non, si on a été un homme avant de se considérer femme aujourd'hui, on n'a pas le droit faire ces collages-là.
On n'a pas le droit, ça compte pas, on n'est pas dedans. C'est très très bizarre. Et puis même sur les questions des pro-choix, enfin je veux dire la question du voile et surtout la question de la prostitution, les abolitionnistes sont pas du tout dans une ouverture pour que les groupes puissent défiler les uns à côté des autres dans le cas d'une grève. Enfin, pour la marche nous toutes, ça s'était très bien passé. Hein. Tous les collectifs étaient représentés.
Je précise que cette marche était donc le samedi 23 novembre 2019. C'est la plus grande marche de l'histoire française contre les violences sexistes et sexuelles. 150 000 personnes, dont près de 100 000 à Paris. C'est loin de faire une femme sur neuf, écrivez-vous, mais c'est déjà un
pas
bon
mal.
Début.
Oui, ouais. C'est un bon début, ça montre bien qu'il y avait une volonté. Et encore une fois, c'était une marche, c'était pas une grève. La grève, ça peut être différent.
Nous voulons l'égalité, tout simplement. Nous sommes donc à Reykjavik, et il est 14h38, l'heure exacte à laquelle les Islandaises étaient appelées à quitter leur bureau et leurs usines. Ainsi, à 14h38, les femmes quittent leur travail à l'hôtel de ville, pancarte de revendication à la main. Pourquoi cet horaire très précis? C'est en raison de la différence de salaire avec les hommes. Payés 14% de moins, les Islandaises estiment que tous les jours après 14h38, elles travaillent gratuitement. Elles se sont donc retrouvées sous le mot dièse « Jokanjor », excusez-moi pour l'accent, cela veut dire « égalité de traitement ». Et ce n'est pas la première fois.
Et une première grève nationale des femmes en 1975, le 24 octobre 1975, en Islande, à l'initiative du groupe féministe Red Stockings. L'Islande a reconnu le droit de vote aux femmes dès 1915, mais elle subissait néanmoins des discriminations sexistes. En 1975, les femmes se sont mobilisées, elles ont bloqué les entreprises et les institutions à travers tout le pays. Elles ont revendiqué l'égalité et leur succès a été historique. D'après les études, l'Islande est le pays où est le plus pratiqué l'égalité homme-femme et le nombre de féminicides est de zéro.
Mais oui, mais parce qu'en fait, ça a été très bien montré, ça, par différentes féministes sociologues et tout ça, c'est que il y a une chaîne de la violence. Et à partir du moment où on commence par des discriminations toutes petites, bah, petit à petit, ça enfle et on se retrouve en bout de chaîne avec des féminicides. Mm-hmm. On est un pays où le taux de féminicide est vraiment très élevé.
Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour convaincre les Françaises de descendre dans la rue pendant des jours pour réclamer l'égalité, point final, hein?
Je pense qu'il faudrait que chacune se rende compte de à quel point elle est concernée. C'est-à-dire que beaucoup ont l'impression qu'elles sont un peu hors des violences en question, privilégiées, pas touchées de front. Il faut une question de solidarité et de sororité. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été pas agressé soi-même ou qu'on n'est pas concerné. Et je crois que ça, c'est très important. Et aussi parce que je sais pas si c'est propre aux Françaises, mais il y a un côté un peu à minimiser aussi les agressions et les violences. On est tellement habitués. Et je pense que la libération de la parole maintenant fait qu'il y a quand même une prise de conscience un peu plus large. Mais il faudrait que le ras-le-bol ne peut être entendu que s'il est vraiment collectif et pas par des paroles éparses ou des mouvements éparses. Donc c'est vrai que moi, mon gros fantasme, ça serait une action sororale absolument collective à l'échelle nationale. Là, on obtiendrait quelque chose, je pense.
Est-ce que ce serait une action inclusive? C'est-à-dire les hommes qui voudraient y participer en soutien total pourraient-ils marcher avec vous?
Alors moi, je suis pour le fait qu'on ait une période historique où les alliés sont nécessaires, mais pas toujours bienvenus. Mais là, pour les réunions, je veux dire. Mais là, dans le cas de la grève, évidemment, oui, on a besoin du soutien des alliés. On a besoin de montrer aussi dans ces cas-là que on n'est pas seul avec ce problème-là et que finalement c'est presque un problème pas générationnel, c'est faux, parce que les violences, il y en a aussi chez les trentenaires. Mais je pense qu'on a quand même affaire aux vestiges avec les baby-boomers de comportements habitués qui vont pas rester dans 10 ans. Je pense vraiment que les comportements des hommes de 60 ans, qui sont quand même, c'est pas pour les stigmatiser, les pauvres lapins, mais il y a quand même tout un truc d'éducation patriarcale complètement, et paternaliste aussi, absolument dégoûtante, très très ancrée. Et ça, malheureusement, on va pas les rééduquer. Donc, je pense que ça passe par l'éducation aussi. Moi, je suis pas mère, hein, donc j'ai pas cette responsabilité-là. Mais je pense que dans 10 ans, le paysage de la France au niveau des rapports hommes-femmes sera très très modifié. Mais il peut être modifié que si on a aussi des actions un peu fortes.
Forte et avec la participation des hommes, puisque c'est un problème de société au sens général. C'est une question qui concerne absolument tout le monde.
Tout à fait. Pour les marches et pour les grèves. Après, encore une fois, quand il s'agit de réunions, de discussions, etc., je suis pas toujours pour l'inclusion d'hommes dedans. Comme dans n'importe quel problème minoritaire, en fait. Et je pense que c'est, faut faire preuve un peu de patience. On est à une époque précise où c'est passager et on peut se réouvrir au global après.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Avant d'entendre la comédienne Anne Stephens lire en intégralité votre fiction prospective qui appelle à la grève nationale des femmes le 14 juin prochain, écoutons cette trouvaille que l'on doit à l'un de nos programmateurs musicaux, Michael Lio. Sur son album « J'ai de bonnes nouvelles » paru en 1978, la française Anne Sylvestre chantait déjà l'histoire d'une femme qui décide du jour au lendemain de se mettre en grève. Titre de cet hymne aux arrangements champêtres et sautillants, Clémence en vacances.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. La maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien, Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comme en enfance, elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comme en enfance, se reposeraient enfin.
Je suis toujours en compagnie de la romancière, essayiste, dramaturge et performeuse française, Chloé Delhomme. Nous allons laisser la comédienne Anne Stephens lancer l'appel à la grève nationale des femmes françaises. Anne Stephens, certains de nos auditeurs et auditrices l'auront vu dans des films de Benoît Forgeard, dans Gaz de France ou plus récemment dans Yves. On a pu l'apercevoir aussi dans Les Poupées Russes de Cédric Clapiche. Elle prête également sa voix à l'origine du court-métrage d'animation La Nuit des Sacs Plastiques de Gabriel Harel qui est en lice pour les Césars. Et Anne Stephens n'a rien d'une inconnue pour vous, Chloé, puisque vous avez écrit pour elle un monologue intitulé Eden, matin, midi et soir, c'était en 2009. Ça a été joué à la Ménagerie de Verre et adapté à la radio sur France Culture. Anne Stephens avait aussi le premier rôle de votre premier court-métrage en tant que réalisatrice et scénariste. C'était en 2014. Cela s'appelait La Contribution, un film d'anticipation qui imaginait qu'en 2084, toutes les crises environnementales et économiques poussent une organisation mondiale des nations consciente du problème à faire en sorte qu'à chaque fin d'année, un pays est tiré au sort et doit éliminer tous les individus âgés de 30 ans. Est-ce que vous croyez que cette lecture qui est sur le point de démarrer pourrait être une sorte de préambule à une véritable grève générale des Françaises le 14 juin 2020 ?
Ce serait fabuleux si je pouvais pour une fois dans ma vie me rendre utile.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
En cas de grève nationale des femmes de Chloé Delhomme.
Exercice 1. Expression libre. De l'incidence d'une journée de grève nationale des femmes sur le gouvernement.
Imaginez l'impact et la force de frappe d'une alliance féministe à travers tout le pays. L'union des femmes, de toutes les femmes, de la maman à la putain. Sororité active. L'espace public, violé de monde, des chants et des banderoles, le gel des activités. L'action serait symbolique, mais partagée par tant et fait de masse imposant. Si saisissant qu'il agirait immédiatement, comme en Islande en 75. Des crédits seraient débloqués, les lois seraient appliquées, d'autres adaptées, créées. On obtiendrait la fin des inégalités salariales et de la discrimination à l'embauche. La construction de crèches, l'éducation dégenrée, un cadre de vie égalitaire. Imaginez votre quotidien au lendemain chantant de cette lutte. Ce que ça changerait concrètement. Une augmentation de salaire de 20% et l'accès aux postes de pouvoir. Visualisez le premier impact et comment se fissure soudain le plafond de verre. Mais qu'en serait-il dans les foyers et dans la tête des mal-alpha ? Comment faire levier sur les mœurs ? Il nous faudrait plus d'une journée. Selon l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, en France, toutes les 9 minutes, une femme subit un viol ou une tentative de viol. Cette donnée date de 2016. Dans la mesure où les violences envers les femmes sont stationnaires ou en augmentation ces 4 dernières années, nous conserverons ce chiffre.
Exercice 2. Calcul mental. De l'incidence d'une journée de grève féministe nationale sur certains de ses composants.
Si une femme est victime de viol ou tentative de viol toutes les 9 minutes. Si la grève dure 24 heures, si durant cette grève, l'imposante masse de femmes groupées neutralise tout acte prédateur, calculez le nombre de femmes épargnées durant cette journée de grève féministe nationale.
Exercice 3. Proposition dystopique. De l'incidence d'un mois de grève nationale des femmes sur leur environnement.
La journée de grève est un échec. Le nombre de corps manifestants n'impressionne pas le gouvernement qui préfère leur crever les yeux en envoyant les CRS. Aussi, le mouvement change de forme. Un mois de grève totale est déclaré. Les citoyennes françaises désertent leur poste. Grève du travail visible pour un dysfonctionnement sociétal immédiat. N'oublions pas qu'il s'agit là d'effectuer une révolution et qu'une révolution se fait rarement sans perte. Attendu que 77% des postes de la fonction publique hospitalière sont tenus par des femmes, attendu que chaque mois 1 million de Français est hospitalisé, estimez les conséquences sanitaires de cette grève ainsi que l'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises de pompes funèbres.
Exercice 4. Confrontation domestique. Des conséquences d'une grève du travail invisible sur ces messieurs.
Le mois de grève du travail visible est un échec. Le nombre de morts qu'il engendre arrange bien le gouvernement, ça les débarrasse de ces vieux. Puisque le privé est politique, les femmes font la grève de chez elles, dans leur propre foyer, là où elles ont une charge de travail supérieure à leur conjoint d'1h30. Elles rendent leur tablier et s'en vont se réunir chez les unes et les autres, tandis qu'elles sont traquées par le GIGN. Sachant que, étude Ipsos 2018, 71% des hommes en couple considèrent que participer aux tâches domestiques fait partie de leur rôle. 68% des hommes en couple estiment que s'occuper des tâches domestiques leur renvoie une image positive d'eux-mêmes. Sachant également que 21% des hommes en couple trient leur linge et lancent une lessive, 20% repassent eux-mêmes leur chemise, 22% lavent les sanitaires, 29% préparent le repas, 13% s'occupent des enfants, bien que 55% sortent les poubelles, probablement parce que ça leur permet de prendre l'air. Calculez combien de temps un homme en couple confronté à la grève de sa compagne va mettre pour laver ses chemises avec le suite rouge neuf du petit dernier, inonder d'urine le sol des toilettes, se nourrir exclusivement par Deliveroo même s'il vote très à gauche, découvrir que son fils aîné est en classe de 5e. Calculez également, attendu la charge mentale, le nombre de jours qui le séparent du burn-out.
Exercice 5. Exercice d'imagination. De la suppression du CARE comme principe actif.
Le CARE est à la mode. Le soin, c'est féminin. L'empathie, notre lot. La bienveillance, mesdames, maintenant, c'est finito. Imaginez la vraie grève de la bienveillance. Laissez venir à vous la puissance de Lilith, première femme à dire non. Entre les mains des femmes se tisse le lien social. En temps de grève totale, on laisse tomber le rouet. Imaginez la vraie grève de la bienveillance. Les femmes, toujours tempères, si gentiment apaisent et regonflent les égaux. Le temps de la colère a peut-être sonné. Imaginez, chaque fois que vous êtes bienveillante, les conséquences directes si vous vous absteniez. Calculez l'énergie que ça vous coûte chaque jour et divisez-la par le nombre de conflits évités. Maintenir une bonne ambiance n'est plus votre problème et la souffrance d'autrui n'est plus votre souci. Imaginez la vraie grève de la bienveillance. Calculez le pourcentage d'allègement immédiat de votre charge mentale à l'échelle quotidienne et le nombre de conflits chez vous ou au travail, espace privé, public, qui ne peuvent qu'éclater.
Exercice 6. Inspiration. De la grève du sexe comme outil de chaos.
Dans la pièce d'Aristophane, Lysistrata pousse les femmes à se refuser à leur mari pour faire cesser la guerre. En janvier 2017, au Kenya, pour combattre l'abstention, une députée a engagé les citoyennes au boycott sexuel tant que leur partenaire n'était pas allé voter. La grève du sexe ne peut être efficace que si elle est menée par toutes. Quelle que soit sa situation, conjointe légitime ou maîtresse, amante régulière ou coup occasionnel, les femmes doivent en chaîne faire ceinture. Cela implique donc aussi de désinstaller Tinder. Tant que les choses ne bougent pas, à la bite, on ne touche pas. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, le mâle hétérosexuel, fils aîné du colonialisme et de la phallocentrie, se trouvera perturbé. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, la frustration de chacun se déploiera dans l'espace public et ils se mettront sur la gueule dès le matin dans le métro. Parce que, nota bene, selon l'Observatoire des violences faites aux femmes, 47% des viols sont commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. Aussi, en cas de grave du sexe, il est recommandé d'utiliser le bromure et de prévoir un couteau.
Exercice 7. Dernière proposition. De la grève de la natalité comme ultime recours.
Les Romaines du 3e siècle avant Jésus-Christ y ont pensé pour pouvoir remonter en voiture. Elles étaient alors obligées de faire aussi la grève du sexe. De nos jours, c'est moins contraignant. Paul Preciado, en 2014, en réaction à la loi sur l'avortement en Espagne, invitait à la grève des utérus. Il s'agit donc de protester en bloquant la natalité. Les femmes, jambes croisées, le pays perd pied.
Energy, drank a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I wrote the word, money stacks for all my daughters. Hey. Never asked for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times trying. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees.
I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting at they say. Waiting at they talk. Now serious talk at they talk go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come, when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go see.
With all my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Intr-
introduce a nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees,
Energy, le groove si grand d'Energy appelle à la sororité internationale à tendance inclusive, puisque le sexisme est un problème de société, donc à régler tous ensemble. On doit cette merveille bien sûr à Sampa the Great, né en Zambie en 1994, Sampa Tembo, qui a grandi au Botswana, qui a étudié en Californie avant de s'installer en Australie, signé chez Ninja Tune pour son premier album The Return en 2019. Sampa the Great sera en concert en France en juin, notamment à Vincennes pour Will of Green ou à Reims.
Nova Book Box, des bouquins à la louche, lus à la bouche.
Chloé Delhomme, j'aimerais profiter de votre présence ici pour vous entendre parler, si vous êtes d'accord, d'une artiste féministe disparue mi-février à 79 ans, la créatrice d'Agrippine ou des Frustrées, je pense bien sûr à Claire Bretéché, cofondatrice de l'Écho des Savanes, l'une des rares dessinatrices des magazines Pilote, Spirou ou du Nouvel Obs, qui se définissait comme une féministe engagée, mais pas militante.
Le féminisme, c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse en ce moment, si je peux dire. Mais c'est assez difficile parce que moi, le militantisme, j'ai horreur de ça. Parce que dans le militantisme, il y a ce côté pur et dur. Il y a les gens qui sont sûrs d'avoir raison et qui vont contre le mal, qui est certainement le mal. Il y a sans discussion possible. Bon, moi, ça m'emmerde beaucoup comme attitude. Et d'autre part, si tu es féministe, tu es pratiquement obligé de prendre une attitude de martyr. Tu es obligé de tout expliquer par... Expliquer tous tes échecs par le fait qu'on t'a empêché de que ceci, que cela. Alors ça, moi, ça m'emmerde également. Donc je ne peux pas avoir une attitude féministe franche. Et comme de toute façon, dans n'importe quel domaine, je trouve qu'on arrive à ses fins, qu'en biaisant et qu'en allant par la bande et en étant au maximum hypocrite, dans ce domaine-là, je trouve que c'est aussi le meilleur système. C'est-à-dire, si tu veux, je fais acte de féminisme en mettant des femmes là où autrefois on mettait des hommes. Dans les bandes dessinées, il n'y avait que deux types de femmes. Il y avait ou la Pépé Gironde ou la Mégère. Il n'y avait vraiment que ça, dans les scènes humoristiques aussi. Moi, je mets des gens, des filles normales et courantes, et comme toi, moi, enfin, qui sont ni l'un ni l'autre. Ni Gironde, ni Pépé Gironde, ni Mégère.
À l'annonce de son décès, vous avez écrit sur votre page Facebook quelle était votre dessinatrice préférée. Pourquoi ?
Mais parce que c'était la plus drôle, et puis parce que moi j'étais gothique quand j'étais petite, et à un moment donné, il y a un album où Agrippine fait une petite crise de non-vie, et ça m'avait beaucoup marqué. Et puis parce qu'elle fait plein de blagues sur les féministes aussi, d'ailleurs, je me souviens d'une planche où il y a une prise d'otage de victimes de viol par deux espèces de féministes qui se battent la maternité du fait d'Yves pour leur page de magazine. Enfin, elle pouvait être très dure aussi. Et puis c'était, c'est la première qui a vu les bobos avant qu'on appelle ça des bobos aussi. Et je crois qu'elle avait, vraiment l'humour féroce, qui est une expression épouvantable, mais qui lui va bien.
C'est quelqu'un qui vous a accompagné longtemps, ou ça correspond à une lecture à un moment précis de votre vie?
Ben en fait, c'est un truc très simple. C'est quand j'ai eu le prix décembre en 2001, j'ai eu plein de sous.
Et du coup, j'avais acheté.
Ouais. Et du coup, j'avais acheté l'intégrale à ce moment-là, mais je les avais lus plutôt en bibliothèque avant, en fait. Mais maintenant, je les possède.
Et ça a nourri aussi une pensée, un regard ironique aussi sur toutes ces questions sociales.
Je crois que ça, et puis ça accompagnait de façon riante. Après, je peux pas dire non plus que ça ait modifié ma perception politique des choses. Ça serait vraiment exagéré. Non, c'était une sorte de bonne compagnie.
De bonne compagnie.
De bonne compagnie.
Claire Bretéché a donné naissance à des héroïnes emblématiques de la bande dessinée française. Vous l'avez dit, Agrippine, mais aussi Cellulite, Les Mères, Thérèse Davila. Elle disait « Je ne sais pas faire fonctionner les personnages masculins. Je ne comprends pas leur mécanique. Tout le monde me dit qu'il n'y a rien à comprendre, mais c'est faux. Il y a quand même des constantes, par sexe et par mode de vie. » Est-ce que vous vous posez cette question ?
Bah, je suis hyper d'accord.
En tant que romancière, j'allais vous demander comment faire vivre des personnages masculins.
Bah, en fait, c'est une vieille discussion que j'avais eue avec Lydie Salvert, qui elle a beaucoup de personnages masculins et qui m'avait dit « mais des hommes ou des femmes à traiter, c'est la même chose ». Eh ben moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'en ai quelques-uns qui en général sont plutôt des fonctions que des vrais personnages épais.
Vous pouvez en citer un ?
Bah, dans certainement pas, j'ai 4 hommes. Je sais plus leur prénom parce que c'est un roman qui date de 2004, mais c'est dire à quel point j'ai peu d'hommes. Dans ma maison sous terre, j'ai le personnage de Théophile, mais qui est le guide, qui n'a pas du tout de, qui est là pour renvoyer la balle. Dans mes romans d'autofiction, j'avais mon mari de l'époque, Igor, qui lui-même se plaignait à l'époque de n'être qu'une fonction, en me disant ce personnage ne sert qu'à te renvoyer la balle et te mettre en valeur.
Vous voulez dire que vos personnages masculins, selon votre regard, manquent de chair, d'épaisseur et de vérité psychologique.
Et de vérité psychologique, bien sûr, c'est pour ça que j'en fais plus. Du coup, dans Les Sorcières de la République, j'ai un personnage de président de la République, mais qui est là pour assumer sa fonction de zinzin. Et sinon, j'ai des femmes, et dans le prochain roman qui sort en septembre, Le Cœur Synthétique, c'est une célibataire de plus de 40 ans qui croise des hommes, et elle croise des archétypes.
Elle croise pas de vrais.
J'arrive
personne.
Pas sur la psychologie. Alors peut-être que c'est terrible, hein, que c'est parce que je suis trop dans l'autofiction et que je suis incapable de transposer autre chose que sur des femmes qui sont des doubles de moi. C'est possible que ce soit une pauvreté de ce côté-là. C'est aussi peut-être que la psychologie masculine m'échappe un peu, ou alors je suis tellement misandre au fond que j'arrive pas à trouver de l'épaisseur dedans. Mais j'ai un projet de livre pour plus tard qui va se passer dans une résidence d'artistes, où là du coup il y aura 4 hommes, 4 femmes, et là je vais m'y coller. Ça fait partie des projets, d'être capable de pouvoir développer un personnage masculin avec autant d'aspérité qu'un féminin. Mais pour l'instant, c'est un échec, hein, je dois bien le reconnaître. Bah, c'est pour ça que je m'y confronte pas. Mais là, j'ai décidé, dans les mois qui viennent, je vais... Parce que c'est pas possible, après 20 ans de publication, de pas avoir un mec qui tient la route, quand même.
Il n'y a aucun qui a grâce à vos yeux parmi tous vos personnages masculins ?
Bah non, parce que c'est toujours des personnages qui sont loin d'être le héros et qui sont là pour faire chier l'héroïne, en gros, quoi. Donc... Mais c'est un problème. C'est un problème de savoir-faire, je le reconnais.
Est-ce que chez vos consoeurs, pour le dire rapidement, romancières françaises ou francophones en activité, est-ce qu'il y en a qui réussissent ça, qui réussissent à faire exister des personnages masculins qui tiennent, épais, nuancés, complexes?
Bah, Salvert, je le disais, elle, c'est trois quarts, c'est des voix d'hommes, c'est même parfois des voix d'hommes en monologue, hein, donc on est vraiment dans l'intériorité, c'est hyper réussi. Après, je sais pas, même si je prends même Véronique Ovaldé, qui met beaucoup de filles, elle a quelques personnages masculins qui tiennent, enfin...
Dépente réussit assez souvent l'exercice.
Dépente réussit à faire ses garçons, non, c'est pas...
Et comment elles font, à votre avis?
Peut-être qu'elles ont plus d'amitié pour les garçons. Je sais pas. Elle se méfie moins, peut-être. C'est après une question de confiance aussi. C'est-à-dire que comme je me dis que je vais pas y arriver, peut-être que je m'y confronte pas et que j'ose pas trop. Donc, mais c'est une question qui me taraude vraiment. Mais j'ai l'impression que la psychologie est pas vraiment la même. Donc, j'ai du mal à... Là, dernièrement, par exemple, pour Arte, j'ai participé à une fiction docu sur les violences faites aux femmes qui sera diffusée dans quelques mois. On nous donnait un fait divers, il fallait le transformer en petit monologue. C'était une violence de harcèlement. Il fallait que je pense à ce que l'homme avait dit pour pousser la femme dans ses retranchements. J'ai dû faire appel à une copine parce que j'étais en incapacité de deviner le comportement du... Oh, pas pervers narcissique, c'est pas exactement ça, mais bon, disons du harceleur. J'ai du mal à me projeter dans la tête des garçons. Ouais.
Y compris en passant par la documentation, tout simplement, parce que peut-être que pour pouvoir se projeter dans la psychologie d'un harceleur, par exemple, il doit exister, je suppose, des rapports de médecins, de juristes, des flics qui ont dû arrêter des gens comme
oui,
ça.
Oui,
il y a des fictions qui sont fiables.
Non, mais c'est marrant que pour de la psychologie, ça nécessite autant de recherches, alors que les trois quarts de mes collègues, elles réfléchissent deux minutes et puis ça vient tout seul, quoi. Mais c'est pas spontané. C'est pas spontané. Je crois que je suis... Vraiment, j'ai pas de part masculine en moi, si on veut aller dans ce genre de délire un peu. Bah non, je suis vraiment. J'ai du mal.
Ok. Et dernière question, par curiosité, toujours sur ce registre-là, parmi vos consoeurs au sens large, à travers les siècles, quel est votre personnage masculin de fiction favori? Celui où vous vous dites, tiens, celui-là, c'est un allié aussi.
Mon préféré ami, à part Colin dans L'écume des jours, parce que ça c'est trop fastoche.
De Boris Vian.
Ça serait le personnage de Des Esseintes dans À rebours, en fait, qui est un neurasthénique collectionneur qui va très mal. Mais.
Pourquoi lui d'ailleurs?
J'ai un souvenir ému de ses ressentis pour le coup. Je me sentais concernée alors que je suis pas du tout neurasthénique et pas du tout collectionneuse. Mais c'est un esthète à rebours, c'est toute l'histoire d'un esthète et qui est hypersensible. Et je crois que ça m'avait bien marqué. Mais non, les personnages masculins, c'est pareil, c'est pas trop ma cam. Mmh. Et pareil dans les séries ou les films, en fait, j'ai pas... À part Jim Profit, peut-être.
Qui est Jim Profit, pardon?
Jim Profit, c'était une série qui a eu qu'une saison, et c'était une espèce de... C'était hyper malsain, et c'était un col blanc qui... Une sorte de... Un peu à la Bret Easton Ellis, mais qui était pas serial killer, et qui dormait dans un carton au milieu de son grand loft, et qui faisait flipper. C'était bien Jim Profit.
Et lui ok.
Lui je l'aimais bien parce que c'était vraiment tordu.
Afropunk par les New-Yorkais propres sur eux de Vampire Weekend, titre d'ouverture de leur ravissant premier album en 2007, qui contient aussi ce titre intitulé Campus. Des vampires, un campus, de beaux jeunes gens qui n'ignorent pas que le mal peut surgir à n'importe quel moment. Ça ne vous rappelle pas un peu la série télévisée Buffy contre les vampires, qui sera le sujet d'une pop conférence à travers les théories et les écrits de philosophes, de sociologues, d'anthropologues ou de critiques, animée par Nadia Hamann lors du festival Mythos à Rennes le 2 avril, précisément au tambour, à l'université Rennes 2. Or, Buffy est aussi l'héroïne d'un livre écrit par mon invité, Chloé Delhomme.
Nova Book Box, allez, sois chou, lis-moi un bout.
En avril prochain, les éditions Joux rééditeront La Nuit, je suis Buffy Summers, un livre que vous avez écrit en 2007 et qui était épuisé depuis longtemps. Il ressort avec une préface de votre ami Paco Mtielman et des illustrations de François Allary. C'est à la fois une fanfiction sur la tueuse de vampires et un livre dont vous êtes l'héroïne. J'aimerais que vous nous racontiez, Chloé Delhomme, quelles armes conceptuelles, théoriques vous a donné ce personnage de Buffy, créé, je le rappelle, par Joss Whedon pour la série télé diffusée de 1997 à 2001 aux États-Unis. En quoi c'est une série si importante pour la cause des femmes?
Alors c'est important parce que c'est la pom-pom girl qui prend le pouvoir. Je veux dire, Buffy est l'élu, mais à la base, c'est une petite blonde un peu idiote. Enfin, il a fait exprès de prendre... après, son parcours fait qu'elle devient vraiment la tueuse et qu'elle a de l'épaisseur, mais au début, elle est légère. Et surtout, Buffy, ce que je trouve intéressant, c'est que sans le groupe et sans le collectif, l'héroïne n'existe pas. C'est-à-dire que d'habitude, les super-héros, ils sont bon, ils ont un valet qui va leur rendre service... mais ils sont seuls à être super-héros. Buffy, sans le ce que les fans appellent le Scooby Gang, c'est-à-dire sa bande d'amis, son groupe d'amis, ça ne marche pas. Et à la fin, elle donne les armes aux autres, surtout. Buffy, c'est la première série sororale. La saison 7, la dernière, toutes les bébés tueuses sont activées et elle fait une sorte de coven. C'est-à-dire, le coven, c'est là où se réunissent les sorcières. Donc là, c'est...
un couvent de sorcières.
Voilà, enfin, c'est comme une école, quoi. Et elle entraîne les petites tueuses et elle transmet. Et il y a de la sororité et de la solidarité entre les filles là-dedans. C'est la seule série qui met en avant le collectif pour sauver les forces du mal. Enfin, où c'est pas une équipe de super-héros, parce que dans ses amis, elle a des gens normaux aussi qui prennent, du coup, qui l'aident à sauver le monde, puisqu'il s'agit bien de sauver le monde, soit de l'apocalypse, soit des forces du mal. Ça dépend des épisodes. Et moi, ça a été vraiment... bon, d'abord, moi, je mets la culture pop au même niveau que la culture littéraire. Je veux dire, pour moi, Buffy, c'est aussi important qu'Emma Bovary. Voilà, j'assume complètement ce côté-là. Et Buffy, ça m'a accompagnée. J'étais fan, mais comme j'ai pu être fan d'Indochine, hein, je veux dire, c'était vraiment... je possède le pieu de Buffy, la pierre de Tezoula, enfin... Je suis très très attachée et je crois que j'y ai trouvé aussi beaucoup de réconfort comme un doudou. Pour ça aussi qu'il y a peut-être un doublon avec Indochine aussi. Enfin, c'est un peu mon refuge quand ça va pas bien. Je me mets un épisode et je suis à la maison, quoi. Il y a un rapport très très affectif avec cette série.
Mais qui vous réarme aussi quand ça va pas bien?
Ouais, ça me réarme, je reprends le pieu grâce à elle. Oui, oui, c'est une petite astuce, mais je me dis qu'après tout, moi aussi je lutte contre les forces du mal et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien si on est bien entouré, quoi.
Entouré d'hommes et de femmes, parce que je connais pas bien la série, mais
dans
le Scooby Gang, il est mixte,
deux,
en fait.
Il est mixte, bien sûr, non, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est-à-dire qu'elle va à la fin activer les tueuses, mais parce que ce sont des tueuses par définition, mais sinon le groupe est totalement mixte, et il est même mixte au sens où il y a des démons aussi dedans. C'est pas que des humains, ils sont vraiment pour la grande mixité dans ce groupe.
Si la nuit, vous êtes Buffy Summers, est-ce que le matin, vous êtes plutôt Valérie Solanas?
Ouais, je suis Valérie Solanas, le jour et la nuit, moi.
Alors, je rappelle, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre, Mes bien chères sœurs, vous le dites comme vous le dites au cours d'une phrase qui est formulée comme une petite annonce. Lectrice de Solanas cherche allié pour monter le gang des trancheuses de couilles à l'orée d'une fin de siècle. Valérie Solanas est une féministe radicale américaine qui, je le précise, pendant ses études de psychologie, tenait une libre antenne radiophonique où elle donnait des conseils sur comment combattre le patriarcat. Elle est surtout connue pour être l'autrice du Scum Manifesto, Scum étant l'acronyme de Society for Cutting Up Men, qu'on peut traduire par...
La société pour mettre les hommes en pièces, mais la question de l'acronyme est compliquée. C'est l'éditeur qui lui a soufflé, et l'éditeur, c'était Girodias, qui était l'éditeur de Burroughs. Donc le cut-up, c'était un peu une blague pour eux. Elle a utilisé l'acronyme, mais il faut l'entendre comme scum, c'est le rebut, c'est la racaille. Et en fait, c'est plutôt le manifeste d'une femme, rebut, racaille, plutôt qu'un appel à trancher les couilles. Elle parle pas de coupage de couilles. Couper les bites, moi, c'est une obsession que j'ai depuis mon premier roman, mais c'était mon problème. Elle était plus dans le métaphorique, en fait. On a tendance à la faire passer pour une hystérique à cause de ça, à tort, en fait.
C'était un manifeste qu'elle a écrit en 1967 et qu'elle vendait elle-même dans les rues de New York en brochure renéotypée pour l'avènement d'un monde féminin décomplexé, fun et tripant, où, je vous cite, et je la cite en même temps, où, une fois l'argent éliminé, il deviendra inutile de tuer les hommes, ils auront été dépouillés du seul pouvoir qu'ils exerçaient sur les femmes indépendantes. Valérie Solanas a ensuite fait 3 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne d'Andy Warhol.
Scum, manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses, qu'a renversé le gouvernement, virgule, éliminé le système monétaire, virgule, institué l'automation totale, et détruire le sexe mâle, point.
50 ans après ce manifeste, après Scum, en quoi le texte est-il encore pertinent?
Mais parce que c'est le texte féministe radical le plus efficace et le plus drôle surtout. Moi, ce que je trouve très important, c'est que chez les féministes, souvent, l'humour est pas tellement présent. Du coup, on est mal entendu parce qu'on passe pour des hystériques. Alors Solanas, ça s'est un peu raté parce qu'elle est quand même très 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 énervée. Mais il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire que je suis pas intimement persuadée qu'elle prenne son propre scum au pied de la lettre, Solanas. Mais il y a une vision qui rappelle à quel point ça commence par ce monde. Dans ce monde, rien n'est fait pour les femmes. Enfin, dans cette société, rien n'est fait pour les femmes. Et ça, c'est toujours d'actualité, je pense. Et puis, elle combat une vision patriarcale. Je pense que il y a des personnes qui, dans la lecture de Solanas, voient du queer, en fait, avant l'heure. Plutôt à raison. C'était un personnage très, très troublant. Elle avait l'air d'une butch, mais en même temps, elle sortait parfois avec des garçons.
Butch, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là.
Une lesbienne très camionneuse, on va dire. Et puis, elle était contre les relations. Enfin, elle se prostituait, mais dans sa vie privée, elle considérait que le sexe était une perte de temps. Que c'était une forme d'aliénation. Enfin, elle a plein de trucs super intéressants, Solanas, qui sont très hors des sentiers battus, mais qui méritent réflexion. Moi, je sais qu'en ce moment, par exemple, j'ai beaucoup de copines qui... Enfin, je suis hétéro, donc j'ai les problèmes des féministes hétéros, à savoir comment on pactise avec l'ennemi. Est-ce l'ennemi, déjà? Moi, je ne pense pas. Mais Solanas, là-dessus, elle avait une réponse très ferme. Hein. Pour elle, c'était une forme de soumission à l'homme c'était une perte de temps, quoi. Donc là, elle était asexuelle. De nos jours, c'est des questions aussi que des femmes se posent. C'est un grand cri, le scum. C'est un objet littéraire. J'invite vraiment les gens à le relire. Il est pas réédité en ce moment, donc il est disponible en PDF dans une version qui est correcte. par une maison d'édition militante en PDF gratuitement sur le net.
Qu'on trouve en une seconde.
Qu'on trouve en une seconde, vraiment. Et ça vaut le coup parce qu'elle pousse le bouchon. Elle dit que l'homme est une sorte de créature avortée parce que l'histoire des chromosomes, elle fait le contraire. Elle considère que c'est l'homme à qui il manque un bout de chromosome et que du coup il est pas complet. Enfin, elle a un contre-pied sur tout et c'est jubilatoire. C'est un texte qui est d'une grande violence, mais qui est très jubilatoire. Après, c'est un cri de souffrance aussi, hein, parce que c'est une femme qui est morte toute seule au Chelsea Hotel, comme un chien. On a retrouvé son corps 3 jours après, ce qui laisse présager quand même d'une grande solitude.
Et puisque vous avez commencé par dire que c'était un texte assez drôle, comment elle fait pour mettre de l'humour là-dedans ?
Ben c'est la violence, mais la violence extrême. Du coup, c'est très très abusé. Elle a fait une pièce de théâtre qui, j'espère, sera traduite un jour en France, qui s'appelle Le Pioras, et dans laquelle elle... c'est une pantalonnade aussi, hyper vulgaire, mais une grosse pantalonnade. Elle n'hésite pas à être vulgaire non plus, c'est ça que j'aime bien. Mais c'est de l'archifrontale, donc c'est un peu choquant pour...
Pour le grand public.
Bah, le grand public qui aime pas trop qu'on fasse peur, quoi.
Here's room 506. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. They come now, see them run now, here they come now, Chelsea girls. Here's room 115, filled with the S&M queen. Magic marker, oh, you wonder just how high they go. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Here's Pope, dear Undine. Ron has treated him so mean. She wants another scene. She wants to be a human being. Here they come now. See them run now. Here they come now, Chelsea girls. Pepe, she's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last. Her future died in someone's. Here they come now, see them run now, here they come now, Chelsea girls.
L'ode funèbre aux Chelsea Girls, chantée par l'allemande Nico en 1967 sur son premier album. La composition est signée de 2 membres du Velvet Underground, Lou Reed et Sterling Morrison, le tout produit par un 3e, John Cale. Le titre de la chanson, Chelsea Girls, est aussi celui d'un film tourné l'année précédente à l'hôtel Chelsea de New York avec Nico au casting. Et 1967, c'est aussi l'année de publication du Scum Manifesto, dont nous parlait à l'instant mon invité, l'écrivaine Chloé Delhomme.
Vous n'avez plus le temps de lire. Nova chausse ses lunettes et vous ouvre les portes de sa très très grande bibliothèque.
Parmi les recommandations que vous listez dans Mes bien chères sœurs pour l'établissement d'une sororité internationale, il y a un conseil qui m'a surpris. Ne jamais critiquer publiquement une femme. Est-ce que, au nom de la cause féministe, en raison d'un patriarcat millénaire, est-ce que vous encourageriez à ne pas attaquer, contredire, désamorcer, par exemple, les positions de Marine Le Pen, une journaliste réactionnaire comme Eugénie Bastier, ou bien l'inconséquence politique de Muriel Pénicaud, par exemple?
Alors, en fait, moi, je pense que, à partir du moment où on a affaire à un animal politique, là, il n'y a plus de sexuation. Donc, Marine Le Pen, c'est pas une personne, c'est des idées. Mmh. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est comme ça que je le gère, je dirais. Mmh. C'est comme ça que je le gère. Eugénie Bastier tient des propos, etc. Elle est sur la place publique, c'est une parole. Elle est quasi décorporalisée. Après, moi, je sais que maintenant, depuis 2 ans environ, je fais attention à ne plus bitcher, ce qui était quand même une petite spécialité maison. Et j'essaye de faire en sorte, effectivement, de pas dévaloriser ou de dire du mal de femmes en public. Mais il s'agit, du coup, dans le milieu du travail ou dans le milieu privé, quoi. Mais l'animal politique, c'est autre chose. Il va de soi. Et en même temps, je crois que sur les attaques à faire sur des personnes comme Marine Le Pen ou Eugénie Bastier, il faut que ce soit des attaques sur le fond.
Sur le travail, bien sûr.
Sur le travail.
Sur les idées, sur le travail.
Je veux pas entendre.
Jamais attaquer sur le genre. Ça, voilà, aucun doute. Mais vu que la nuance n'apparaît pas dans votre texte,
Non. Mais j'aurais dû préciser dans l'ouvrage, à l'époque, effectivement, que les animaux politiques, ça compte pas. J'aurais dû.
Dans les derniers chapitres de Mes bien chères sœurs, vous écrivez « Utiliser le mot sororité, c'est modifier l'avenir. L'époque est historique et ma jouissance est totale. » Dernière question, prospective, un peu Madame Irma. Que va-t-il se passer dans les 5 prochaines années, sur le plan social, législatif ou même littéraire, en ce qui concerne la cause des femmes? Est-ce qu'on peut...
Je suis très optimiste, donc je pense qu'on va avoir d'autres livres dans le genre du consentement, de Vanessa
Spingora.
On va avoir d'autres affaires propres dans le genre de la Ligue du LOL qui vont remonter. C'était des journalistes, là, ce coup-ci, qui avaient harcelé des filles sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on va avoir, dans le quotidien des entreprises aussi, la place des femmes sera mieux prise, puisque... Je vois par mes copines qui bossent dans le traditionnel, à l'embauche, etc., ils font plus gaffe maintenant quand même. J'ai l'impression que ça va pas être un mini épiphénomène MeToo. Je pense qu'on...
Non, c'est parti pour durer, le monde change, c'est sûr.
Je pense que le monde change vraiment et qu'effectivement on sera tranquille dans une dizaine d'années. Il faut être très vigilant sur le retour de bâton éventuel, conservateur et patriarcal dur. Mais
soutenu parfois par des femmes pas tendres non plus.
Oui, soutenu par des femmes qui sont, elles, pour le coup, très clairement à l'ennemi. Et c'est très difficile, voilà. La question que vous me posiez sur critiquer ouvertement une femme, je pense qu'il faut l'éviter. Quand on a affaire à la pétition de la permission...
Liberté d'importuner.
La liberté d'importuner, c'est difficile de pas être énervé. C'est très, très difficile.
Je crois qu'il faut être énervé, il faut pouvoir le dire. Mais
oui,
toujours pareil, sur le fond, sur les
mais
idées.
Mais sur le fond, bien sûr, sur le fond. Mais je pense que ça, on a des bastions réactionnaires, on en a toujours eu. Je pense que quand même, là, le mouvement fait que ça va balayer. Je pense, et puis il faut voir à quoi ressemblent les filles de 20 ans, quoi. Enfin, moi, j'ai 46 piges. Quand je croise l'électrice et que je vois ce que c'est que cette espèce de formidable force... je suis très 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 optimiste.
Soulagée par la relève, vous dites.
Mais oui, vraiment, vraiment. Et encore une fois, quand on n'est pas mère et que du coup la question de la transmission, etc., se pose pas aussi clairement, c'est merveilleux d'avoir des retours comme ça de jeunes filles qui sont légitimement énervées, qui ont la tête bien faite et qui appuient là où il faut, quoi. Et puis qui sont solidaires. C'est surtout ça. C'est que je crois que ma génération, on était très très éclatés. En petits îlots, pas du tout réunis. Le terme de sororité est enfin venu dans le vocable, mais moi je sais que quand j'ai commencé à travailler sur le concept, il y a 3 ans en arrière, j'avais une résidence chez Violette & Co et au Palais de la Femme, Violette & Co la librairie. Le terme de sororité, à part les féministes, je veux dire, et quelques personnes très très éduquées, personne ne voyait de quoi il relevait. On me disait quoi ou alors on poussait le bouchon en me disant pourquoi pas Adelphité. Enfin, c'était
pourquoi pas
Adelphité qui est d'Adelphie, qui est le rapport frère-sœur. Enfin, essayer de trouver autre chose que le soror qui est sœur et qui est le pendant de fraternité, oui, qui est le mot légitime.
Le plus simple, en
le
fait,
plus simple.
Ouais.
Et maintenant, je vois sur les réseaux sociaux, etc., le terme de sororité sort très très vite. Mais ça fait quoi? Ça fait un an et demi, quoi, en vrai. Donc, ça aussi, assister de son vivant à des modifications comme ça, c'est quand même super bien, quoi. Enfin, ça
très
galvanise.
Émouvant, à vrai dire.
Oui, ouais. Vraiment.
Et très bon signe. Merci beaucoup.
Merci Chloé à vous.
À bientôt.
À bientôt.
As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill offs gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses.
Sisters and brothers. C'est sur cette reprise de Bread and Roses, ce poème inspiré par la suffragette américaine Ellen Todd, associée à une grève du textile de 1912, reprise par la chanteuse Dawn Landis, que se termine cette Nova Book Box. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabot avec l'aide de Nabil Chaffa, programmation musicale Michael Lio, la comédienne Anne Stephens qui vous a lu ce texte de Chloé Delhomme intitulé En cas de grève nationale des femmes sera demain lundi à 17h30 à l'université Paris Diderot à l'affiche du procès de Bobigny, un spectacle d'Émilie Rousset et Maya Boquet, soit la reconstitution de ce procès de 1972, celui de Marie-Claire Chevalier et de sa mère pour l'avortement de la jeune fille suite à un viol. Moment crucial dans l'avancée des droits des femmes, ce procès, mené par la célèbre avocate Gisèle Halimi, cristallise les réflexions et les combats féministes de l'époque, avec notamment les contributions de Simone de Beauvoir, de médecin prix Nobel, de l'actrice Delphine Seyrig ou de Michel Rocard. Le spectacle de 3 heures sera aussi visible le 8 mars au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec. La semaine prochaine, j'aurai un serpent à plumes sur l'épaule pour recevoir le trio Texcoco, volcan déclamatoire d'adaptation musicale d'Antonin Artaud, Malcolm Lowry, Laura Esquivel ou Octavio Paz, tiré de leur spectacle Mexica, riche en tequila mélancolique comme en champignons aphrodisiaques, fort d'un poème ancestral transfiguré raga comme d'une pierre de soleil disco, voire d'un crapaud ensorcelé, pour un texte inédit, une création qu'ils vont nous proposer à partir d'un texte de Fernanda Melchor. L'émission a été enregistrée hier au Nouveau Théâtre de Montreuil. Vous l'entendrez dimanche prochain et je vous souhaite un après-midi magnifico muchachos y muchachas. Comme le dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons les tigres.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.